Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de venir à ce café scientifique consacré ce soir à un sujet assez grave, assez prenant, qui touche en tout cas chacune d'entre nous, surtout si on est parents. Donc ce soir, on va évoquer l'enlèvement parental des enfants, donc perpétré par l'un ou l'autre des parents. On a ici des spécialistes du droit sur différents domaines, avec différentes formations, différentes approches. Et le point de départ de cette discussion a été la publication l'année dernière de ce livre, dont les deux, je ne sais pas si on dit co-auteurs, co-éditrices, les deux co-auteurs et co-éditrices de ce livre sont à cette table, ainsi que un des témoins dont l'histoire a servi quelque peu de fil conducteur à cette recherche interdisciplinaire, pardon, et qui est Monsieur Victor, qui est ici présent également à cette table pour témoigner de son histoire. Alors, sans plus attendre, je vais simplement demander à chacun et chacune des intervenants ici présents de se présenter brièvement et de dire un peu quel point de vue ils vont apporter à cette discussion assez rapidement. Voilà. Je commence peut-être par Madame Jäger, qui est à côté.
Donc, je m'appelle Katharina Jäger. Vous entendez mon accent. Je suis suisse allemande. Je travaille comme médiatrice à Fribourg. J'ai, comme formation de base, j'étais institutrice en autre vie et j'ai étudié le droit plus tard. Et je travaille comme médiatrice familiale.
Merci. Madame Volkrieg. Oui, moi je suis Elisabeth Volkrieg. Je suis belge, peut-être que c'est aussi un autre accent. J'étais professeure à l'Université de Louvain, à la faculté des sciences politiques, sociales, économiques et de communication. Et j'ai donné cours de théorie et pratique de médiation pendant très longtemps. J'ai aussi fait pas mal de recherches sur tous ces nouveaux modes de recherche d'accord et de comment se mettre d'accord dans des contextes très pluriels. Donc, moi, ma formation un peu spécifique, c'est de faire attention au discours, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on parle. Et la médiation, par exemple, c'est on parle en médiation. Et qu'est-ce que c'est que parler ? Ça, c'est une chose qui m'a toujours intéressée. Et puis la deuxième, c'est on vit dans un monde qui est en grand changement. Et je voulais comprendre un peu ces nouveaux modes de régulation, cette pluralité dans laquelle on est, et comment on prend des décisions en parlant dans des pluralités, et comment prendre en considération cette pluralité. Alors, sur mon chemin, j'ai rencontré Christine Ekaber, qui elle, a une formation très, très différente. Et on a abordé cet objet complexe de médiation à partir de nos approches et de nos disciplines et de nos formations différentes. Et je vous assure que c'est une réelle histoire. Mais je vais te passer la parole.
Alors, effectivement, je suis Christine Ekaber. Je suis juriste de formation. Je suis professeure ici en faculté de droit de l'Université de Neuchâtel et je suis aussi titulaire de la chaire de prévention et règlement des conflits. C'est une chaire que j'ai eu le grand plaisir de créer ici à l'Université de Neuchâtel. C'est quelque chose qui était très important, dont je suis très reconnaissante à cette faculté de droit, parce qu'il ne va pas du tout de soi que des étudiants en droit, de futurs avocats, soient formés au règlement amiable des conflits, en particulier beaucoup la médiation, mais aussi la conciliation et la négociation. Mon intérêt pour la médiation est un intérêt donc partagé avec Elisabeth Volkrieg. Il est sans doute né aussi d'une vision différente du droit que j'ai acquise au cours des années. Cette thématique de l'enlèvement parental international d'enfants est passionnante, difficile, éprouvante. mais montre aussi les limites du droit, d'un ordre juridique qui n'est plus pleinement adapté aujourd'hui à ce qui se passe, à l'évolution, à la globalisation. Et c'est ce qui a justifié pour moi un regard très différent sur les pratiques du droit à travers la médiation.
Voilà, bonsoir à tous. Alors moi je m'appelle Victor, c'est un nom d'emprunt. J'ai 43 ans, j'habite et je travaille à Genève et je suis papa de deux enfants. Et un des enfants a été enlevé à l'étranger pendant 4 ans. Heureusement, il est revenu, mais voilà, je peux vous parler de mon expérience par rapport à ce qui s'est passé.
Voilà. Voilà, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que votre procédure n'est pas tout à fait terminée, c'est pour ça que vous gardez encore l'anonymat. Donc, en cette époque de réseaux sociaux et de partage tous azimuts d'images, je vous inviterai juste à faire preuve de discrétion par rapport à ce qu'a fait Scientifique et de vous abstenir de diffuser des photos de Victor ici présent, selon le souhait des organisateurs. Voilà. Je pense qu'on est entre nous, donc ça ne va pas poser de problème. Quant à nous, nous prendrons peut-être quelques photos, mais elles seront floutées de toute façon. Voilà. Voilà, ceci étant dit, ce sujet est vaste, hein, et avant d'aborder vraiment très concrètement le cas qui nous occupe, j'aimerais qu'on essaye de donner une définition de l'enlèvement parental d'enfants international. D'abord, le mot enlèvement parental qui semble a priori un peu contradictoire dans la mesure où, si c'est un des parents qui a l'enfant, pourquoi est-ce qu'il est enlevé ? Au fond, il est enlevé à l'autre. Comment est-ce que vous pouvez définir chacun et chacune d'entre vous ce que vous ressentez dans cette définition ?
Moi, je veux bien m'exprimer depuis mes bottes de juriste. Parce que c'est important aussi de voir que dans un panel de personnes qui s'expriment à partir de positions différentes, on ne met pas forcément les mêmes définitions sur les mots. Alors, je vais essayer de vous donner une définition simple, hein, qui est une définition partagée par les juristes, hein, qui est communément admise. On considère, dans le monde juridique, hein, qu'un enlèvement parental d'enfant, c'est le déplacement d'un enfant par un de ses parents. Ça, c'est la définition vraiment minimale, à laquelle il faut ajouter, bien sûr, une chose très importante, c'est que ce déplacement, et c'est un déplacement qui s'effectue sans droit, hein, un déplacement illégal d'un enfant. Et le critère international est dû au fait, on parle de déplacement de rapt parental international d'enfant, lorsque l'enfant, par l'effet de l'enlèvement, l'enfant et les parents se trouvent dispersés dans des états différents. Ce qui rend bien sûr la situation, on aura certainement l'occasion d'en parler, beaucoup plus complexe et ce qui nécessite des mesures, des règles de droit international. Alors, j'aimerais juste revenir à cette question d'une définition juridique. Pourquoi est-ce qu'une définition juridique est importante ? Parce qu'elle pose une ligne de démarcation. Si on entre dans une définition juridique, cela qualifie un comportement qui, par le fait de cette qualification, est ou bien légal ou bien illégal. Donc c'est quelque chose de très fort pour la personne. Et précisément, en matière de rapt parental international, cette catégorie juridique, telle qu'elle est définie, elle a des effets très importants. Pourquoi ? Parce qu'elle est très étroite. On ne considère en droit qu'il y a un déplacement illégal que dans la mesure où le parent qui déplace l'enfant n'est pas seul titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant. Et ça a des conséquences. Ça a eu des conséquences sur Victor, je vais vous expliquer lesquelles. Son deuxième fils, celui qui a été enlevé, est née sous l'empire de l'ancien code civil qui est maintenant révisé. Et cet enfant, les parents n'étaient pas mariés au moment de la naissance de l'enfant. Et à ce moment-là, à moins que la mère soit pleinement d'accord avec le partage de l'autorité parentale, le père n'avait aucun moyen d'obtenir une autorité parentale partagée. Et quand la maman de l'enfant est partie avec cet enfant, le droit ne pouvait pas qualifier cette situation d'enlèvement parental international parce que Victor n'avait pas l'autorité parentale et n'avait pas le droit de décider du domicile de l'enfant. Donc c'est quelque chose quand même de très fort. Ça signifie quoi ? Ça signifie que Victor, qui a vécu cette situation très forte, très violente, il vous le racontera tout à l'heure, comme un enlèvement, n'a pas été reconnu dans cette situation, d'où une double souffrance.
Je ne sais pas si vous voulez, Victor, ajouter quelque chose par rapport à votre ressenti
oui, bien
dans
sûr.
Cette définition.
Alors, bon, évidemment, pour moi, légal, illégal, déplacement légitime ou illégitime, non. C'est d'abord un côté physique dans la définition d'un enlèvement, c'est un kidnapping, c'est une prise d'otage. L'enfant, en fait, devient un otage complet. On stoppe le conflit avec une arme totalement illégale, pour moi. Moi, j'appelais ça même du terrorisme familial, parce qu'on efface l'autre, on détruit un lien complètement. Et puis, un deuxième aspect, évidemment, psychologique, parce que là, il y a un rapt psychologique avec les effets dévastateurs qu'on parlera encore après. Mais une bombe à retardement.
Merci. Madame la sociologue, peut-être, du point de vue sociologique, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces...
Non, je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte de la différence que le registre juridique va canaliser, et va nommer une expérience, et puis on a Victor qui, lui, tout à coup... reçoit un coup de téléphone, « Coucou, tu ne nous verras plus, on est très loin. » Et je crois que c'est important de se rendre compte qu'à travers un discours, à travers un registre, on donne une forme à une situation conflictuelle. Et c'est ça qui est mis en évidence. Et nous, comme sociologues, on peut dire, attention, c'est pas rien, ça.
Voilà. Merci. Madame Yeager, votre point de vue de médiatrice.
Donc, je suis tout à fait... J'ai la même définition que Mme Guy-Hegerberg a donnée tout à l'heure. Moi, je suis sollicitée le moment donné, je reçois un appel ou un email. Voilà, il y a une situation qui est dans mon cercle de travail et donc c'est là que je sais que je dois annuler tous les autres rendez-vous et que je dois être prêt pour cette situation qui est là. Donc pour moi, je rentre en enjeu là, le moment donné où j'ai un appel de la centrale à Berne ou d'un juge en disant « Est-ce que vous êtes prêt ?» Et c'est pour moi, en fait, la définition, c'est là que dès que j'ai cet appel-là, on demande mon travail.
D'accord. Merci beaucoup. Dans l'actualité, ce mois-ci, notamment le journal Le Temps a publié une série d'articles qui sont venus alimenter cette thématique. Et notamment, un des premiers articles de la série abordait la question des inégalités entre mère et père face à la justice en cas d'enlèvement parental d'enfants. Il est notamment mentionné qu'en Suisse, 70% des parents qui enlèvent leurs enfants sont des mères et les refus de droit de visite émanant des mères pour 80% des cas. On est quand même un peu dans le cas de figure de Victor. Donc, j'aimerais savoir de quels moyens vous avez utilisé pour faire valoir vos droits face à cette injustice, donc ce cas de figure où c'est une maman qui vous a refusé le droit de voir votre enfant.
Vous dites les moyens juridiques ?
Oui, les moyens juridiques. Est-ce que vous êtes... Par quelles étapes êtes-vous passé ?
Alors d'abord, un grand trou. Évidemment, c'est une situation qui est horrible. Donc il y a vraiment un déni de la situation. Et c'est très difficile. On essaie de se retourner vers les personnes avec qui on avait plus ou moins affaire avec le conflit, l'avocat, la protection des mineurs. Et puis, évidemment, dès le moment où ça devient international, ça change complètement la donne. Et là, on est dirigé vers des instances qui sont le Service social international, qui est une ONG, en fait. Ils ne sont pas étatiques. Et l'Office fédéral de la justice, qui, eux, ont capacité de contacter les autorités centrales des autres pays. Voilà. Mais c'est évidemment une traversée des enfers. Et c'est une situation où la personne qui vit ça est au fond du trou, quoi. Donc, il faut essayer de trouver des ressources pour essayer de se relever, pour essayer d'aller vers ces instances et demander de l'aide et voir comment on peut s'en sortir.
Des cas comme ça d'enlèvement parental à l'étranger, avec un des parents qui part à l'étranger, il y en a beaucoup, plus 230 chaque année en Suisse. C'est un chiffre qu'on a cité le temps. Madame Guillet-Cabert, est-ce que vous pouvez nous parler de ces cas? Combien il y en a aujourd'hui en Suisse et qui sont la plupart du temps les auteurs de ces enlèvements? Peut-être vers quelle région partent les enfants? Est-ce que vous avez des indications à ce sujet?
Je n'ai pas vraiment consulté les statistiques de façon très complète. Ce que je peux dire, c'est confirmer le nombre que vous évoquez. Il y a environ 250 dossiers qui sont traités chaque année par l'Office fédéral de la justice. L'Office fédéral de la justice est donc l'autorité centrale qui a un rôle de pivot et, comme l'a dit Victor, de communication avec les autorités centrales des autres pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, 250 enfants, c'est beaucoup pour la Suisse. La Belgique, je ne sais même pas quel est le nombre d'habitants en Belgique, ça doit être c'est à peu près comparable, c'est un peu plus petit la Belgique, bien, à peu près comparable. Ah non, c'est plus grand. Donc en Belgique, il y a 400
dossiers traités par an, plus ou moins, ça dépend des années. Il y en a 250 qui concernent des dossiers d'enlèvement effectif, et puis le reste, c'est plutôt des dossiers qui concernent la prévention. On a peur d'un enlèvement, et alors on introduit un dossier.
Voilà. Donc, un chiffre dont on peut craindre de façon très vraisemblable qu'il augmente beaucoup au cours des années à venir, sans vouloir du tout faire de l'alarmisme. Pourquoi ? Parce que en Suisse, le nombre de mariages mixtes est en explosion. Je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de couples mixtes. C'est un chiffre qui m'a paru énorme. Je ne sais pas si vous paraîtra aussi énorme. Un tiers des mariages en Suisse est un mariage mixte.
Qu'est-ce que vous appelez mixte ?
C'est-à-dire dans le sens, pas religieux du terme, mais dans le sens des origines des personnes et même des lieux de résidence des personnes. Oui,
donc un Français ou une Française
toute
avec
nationalité,
un Suisse
de, toute nationalité confondue.
Et est-ce qu'il y a des statistiques plus précises avec des ethnies, peut-être des
certainement, mais je ne les connais
comme
pas.
Comme dans le cas de Victor, où c'est le Sri Lanka, quand même, avec la partie, si je vous appelle ainsi, adverse, est originaire du Sri Lanka, qui a certainement des mœurs et des modes de fonctionnement totalement différents.
C'est ça, statistique existe, mais heureusement, je ne les connais
parce
absolument
que souvent,
pas.
C'est souvent les cas qu'on voit dans l'actualité, c'est souvent avec disons des cultures très différentes de chacune des parties.
Parfois, parfois pas. L'un des cas,
oui. Je pose la question.
Oui, vous avez tout à fait raison. L'un des cas relatés par le Temps récemment parlait d'un père suisse et d'une mère qui était irano-suisse.
Irano-suisse qui s'est enfuie aux États-Unis.
exactement. Oui. Alors. C'est d'une grande complexité, et puis je ne pense pas que ces chiffres-là nous soient d'un quelconque secours. Ce qu'il faut voir, c'est que hormis l'augmentation des couples binationaux, il y a aussi une grande augmentation des divorces. Hein, on avoisine le 50% aujourd'hui en Suisse. J'aimerais encore dire une petite chose à propos des auteurs de ces rapts, hein, puisque vous en avez parlé. qui est extrêmement intéressante parce que dans les années 1970, hein, lorsque la Convention de droit international privé de la Haye s'est préoccupée, a commencé à fortement se préoccuper de ces situations, on était dans une situation juridique assez particulière, hein, puisqu'à l'époque encore, hein, la plupart des pères de famille peinaient, n'obtenaient pas l'autorité parentale dans les divorces. Et ce qui se passait dans les divorces. Les pères non mariés aussi, n'avaient pas la possibilité d'obtenir, sans l'accord de leur femme de leur compagne, la possibilité de partager l'autorité parentale. Donc, ce qui se passait, c'est que le cas de figure typique, hein, c'était celui où le père, qui n'avait pas les moyens de se défendre, enlevait l'enfant, souvent pour l'expatrier dans sa famille. Et puis, depuis un certain nombre d'années, bon, en Suisse, on a toujours un peu de retard sur les autres pays, mais l'autorité parentale conjointe s'est beaucoup développée dans les situations de couples mariés. Maintenant, elle est aussi possible pour les couples non mariés, le partage de l'autorité parentale. Et on aboutit à un renversement complet de situation. Aujourd'hui, ce sont, dans 70% des cas, les mères qui enlèvent leur enfant. Alors, la grande question, bien sûr, c'est de savoir pourquoi ce changement, cette rupture. Là aussi, c'est très difficile à analyser. Mais une chose que l'on peut dire, c'est que très souvent, ces femmes de nationalité étrangère, et puis là, ça rejoint peut-être un petit peu l'hypothèse de pays très éloignés, de cultures très différentes, sont ici en Suisse dans des situations très difficiles quand elles se retrouvent seules. Elles n'ont pas de profession, pas de revenus, pas de cadre familial pour les soutenir, et souvent, la décision de partir, pas systématiquement, mais souvent la décision de partir est la seule décision possible pour elle. C'est presque une question de survie. Alors de nouveau, je ne veux pas généraliser. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres cas. Et puis je sais aussi que Victor a vécu une autre situation.
J'aimerais avoir le point de vue de Madame Volkrieg sur cette augmentation des cas d'enlèvement parentaux internationaux, peut-être du point de vue de la Belgique. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ce qui a été dit? Et de votre point de vue, qui n'est pas juridique.
En tout cas, en Belgique, d'après les chiffres que j'ai reçus de Child Focus, c'est 62% des cas qui sont les mères. Donc, un peu moins qu'en Suisse. Bon, les chiffres valent ce qu'ils valent. Et l'âge des enfants, l'âge moyen des enfants, c'est 6 ans. Et 80% des enfants qui sont enlevés ont 8 ans ou moins que 8 ans. Donc, ils sont quand même jeunes. Alors, vous demandez, la question, c'était pourquoi, au fond...
Voilà. Et puis, j'ai aussi une question subsidiaire. On ne peut pas s'empêcher de penser à l'actualité, au cas de radicalisme. Notamment radicalisme islamiste. Est-ce qu'il y a une relation particulière avec la Belgique qui est sous les feux de l'actualité par rapport à cette question, par exemple, d'enlèvement d'enfants pour aller être formés ailleurs par des papas musulmans? Enfin, je...
Là, vous avez...
On va dans un terrain délicat.
Oui, vous allez dans un terrain... chaud. Et puis...
C'est l'actu, hein.
C'est l'actualité. Ça soulève beaucoup de questions différentes. Là où je rattraperai un petit peu le lien avec ce qu'on était en train de dire, c'est que généralement, on peut dire que dans beaucoup de pays, il y a une augmentation des enlèvements parentaux d'enfants. Je crois que Christine Guillet-Cabert vous a donné une des raisons, c'est la mondialisation, la globalisation, dont on parle beaucoup au niveau économique, bien sûr, mais ce n'est pas que économique, la mondialisation, c'est aussi la mobilité des personnes qui augmente. Je n'oublie pas votre question.
Allez-y.
La mobilité des personnes qui augmente, la famille joue un rôle important, souvent, dans toutes ces migrations. La multiculturalité s'accroît chez les couples mariés et dans les nouvelles configurations familiales. Et ce que ça implique, c'est cette mondialisation, ça implique effectivement des dynamiques plus globales, on les connaît, on y est tous soumis, mais pas uniquement. Il ne faut pas oublier la subjectivité. En tant que sociologue, je m'intéresse aussi aux phénomènes plus subjectifs, parce que tous ces changements passent aussi par nous, et que de plus en plus, nous avons aussi cette mondialisation nous transforme, c'est-à-dire que ça transforme notre vision du monde, notre manière de penser nos relations sociales. On pense beaucoup plus globalement qu'avant. Et ça a un impact sur notre façon de vivre, sur notre identité, sur les choix que nous faisons de nous installer quelque part, les choix de famille, les choix de couple, etc. Ça ne passe pas uniquement par des phénomènes institutionnels en dehors de nous, en dehors de notre subjectivité, je veux dire ça. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas méconnaître, parce qu'on parle tout le temps de la mondialisation dans ses aspects très généraux, mais il ne faut pas oublier que ça passe par nous, la mondialisation aussi. Ça, c'est une chose. Et je crois que c'est cette mobilité et donc tout ce phénomène lié à la mondialisation, à la globalisation, nous affecte. La deuxième chose qui est vraiment importante, j'imagine que c'est la même chose à Neuchâtel en Suisse que dans beaucoup d'endroits, c'est que la famille s'est transformée à une rapidité époustouflante. Je ne suis pas sociologue de la famille, mais nous avons pas mal travaillé et nous nous sommes référés aux travaux d'Irène Théry, entre autres, qui a analysé les transformations de la famille. C'est saisissant. C'est saisissant de voir combien la famille s'est transformée. Alors, pour résumer un peu cette transformation, cette révolution, je crois qu'on peut parler d'une révolution, qui est en train de s'accomplir en Occident. Déjà, je touche un peu à votre question. On choisirait sans doute le mot de parentalité qui a été soulevé par Christine Gueye-Cabert. Pour le dire très rapidement, parce que faut qu'on parle aussi avec vous et que vous parliez, je dirais qu'aujourd'hui, la famille n'est plus fondée sur le lien conjugal, mais elle est fondée sur le lien parental. C'est une énorme différence. Et Irène Théry, elle a une phrase que je trouvais bien, je vais essayer de vous la lire. Enfin, il y en a beaucoup qui sont bien, mais elle dit « Dans une société où l'on peut tout perdre du jour au lendemain, son travail, sa maison, l'amour de son conjoint, la filiation contemporaine veut assurer à tous les enfants la sécurité d'un lien différent de tous les autres, le seul lien social conçu désormais comme inconditionnel, fait pour durer, quelles que soient ses modalités d'établissement et quel que soit le sexe des parents et leur statut conjugal. » Donc le seul lien qui compte n'est plus le lien conjugal, mais c'est le lien parental, c'est la filiation. Alors, je peux peut-être juste dire que le droit familial promeut aujourd'hui la parentalité, que donc les parents doivent être égaux en droit et en devoir, ils doivent s'entendre en tant que parents, et l'enfant est considéré comme un sujet de droit. Alors, là je fais un saut maintenant, mais on pourra y revenir plus tard. Cette promotion de la famille, si elle est assez bien acceptée dans le monde occidental, il faut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec cette conception-là, des assistants sociaux, des juges, des magistrats, des avocats, ils travaillent avec cette notion de parentalité. Elle est très acceptée dans le monde occidental, elle est quand même très récente, elle n'a pas fait ses preuves, elle ne peut pas prétendre à l'universalité, Et elle rentre évidemment en collision avec d'autres systèmes de droit qui peuvent se revendiquer d'autres références, d'autres mondes, je dirais, alternatifs, et parmi lesquels les référentiels musulmans.
Si je cite ça, c'est parce qu'il y a le cas de Marie dans le livre, le papa est algérien et profite de vacances avec les filles du couple pour ne plus rentrer d'Algérie, ne plus rentrer en Suisse, et après, évidemment, le désespoir de la mère qui ne peut plus voir ses enfants, une solution tout à fait chaotique où les filles viennent tour à tour en Suisse pour 2 semaines par an. Voilà, ça c'est un type d'arrangement qui a été fait. Donc c'est pour ça que je me permettais de citer ce cas sans vouloir faire une généralité, évidemment.
Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement vous touchez là quelque chose d'important, c'est que les pays du Maghreb n'ont pas signé la convention de La Haye. Et que, à travers tous ces conflits, moi j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, c'est pas, la famille c'est une institution d'abord, c'est pas uniquement des liens interpersonnels, c'est aussi une institution. Et à travers tous ces conflits personnels, ce sont aussi des conflits qui sont liés à notre époque. Notre époque de pluralité, où on rencontre quelqu'un qui est d'une autre culture, d'accord, il n'y a pas uniquement des questions interculturelles, il y a des notions de l'État qui sont différentes, il y a des systèmes juridiques qui se confrontent, le droit est dans l'impasse, on ne sait plus quoi faire, il n'y a personne vers qui on peut se tourner. Et alors peut-être qu'on arrivera à parler de la médiation tout à l'heure, mais tout ça, ça fait
beaucoup de temps. Vous tendez la perche, nous avons une médiatrice ici, et j'allais justement abonder dans ce sens. Comment arrivez-vous concrètement à mettre autour d'une table deux parties que tout oppose? Enfin, on est très loin encore, on est encore plus loin que dans Kramer contre Kramer, hein, pour ceux qui se souviennent de ce film qui avait jeté déjà, disons, la question du divorce des parents sur la toile. Comment vous, en tant que médiatrice, vous arrivez à faire entendre raison et à ce que les partis essayent de trouver une solution quand tout oppose?
Si c'est dans le cadre d'un enlèvement d'enfants international, il y a une certaine pression qui est là, donc il y a le juge ou la centrale à Berne qui dit on aimerait bien que vous entamiez une médiation. Il y a bien sûr, comme dans toutes les médiations, il y a une personne qui est très pour, parce qu'elle aimerait bien que la situation change, et l'autre qui a beaucoup peur, parce qu'elle craint de perdre le pouvoir qu'il a en l'instant. Dans ces situations-là qui sont envoyées vers moi par une instance juridique, je fais toujours des entretiens préliminaires. Donc, je prends contact avec la mère, avec le père, individuellement. Ça peut être par Skype, ou s'ils sont dans les alentours de chez moi, ou pas trop loin, en Autriche, ou en Italie, ou que c'est possible de venir en Suisse. Ils viennent chez moi et on fait un entretien préliminaire. Et c'est là que j'explique ce que c'est la médiation. Parce que souvent, les parents, ils ne le savent pas. Ils croient que c'est encore quelque chose qui vient être imposé par les juges, quoi que ce soit, et c'est encore le droit, et ils craignent de dire la mauvaise chose pour qui serait après sur la balance juridique qui pèserait d'un côté ou l'autre. Et donc, leur expliquer tout ce qui est dit et entendu et parlé reste chez moi, je communique rien à l'extérieur. Si les parents ne sont pas d'accord, donc il faut que les deux parents soient d'accord pour que je communique quelque chose, ça les rassure déjà. Et après, de vraiment leur expliquer que ce n'est pas moi qui décide, parce que toutes les autres instances, ils décident. Moi, je ne décide pas. Je soutiens les gens de recommencer à communiquer. C'est ça le but. Et souvent, ces parents, ils sont tellement sous la pression de leur avocat, le service social, les différents policiers qui sont venus chercher les documents de voyage. Donc, c'est souvent d'avoir quelqu'un qui veut rien savoir de ça, qui veut simplement écouter qu'est-ce qui s'est passé, mais racontez-moi votre histoire. Ça soulage déjà énormément. Et si je réussis à entamer une relation de confiance, les gens, ils sont d'accord de venir.
D'accord. Alors, ce café scientifique est surtout le vôtre, donc la discussion est ouverte, évidemment, avec la salle. Est-ce que vous avez déjà, vous pouvez déjà réagir, témoigner, donner votre avis? Le micro est à vous. Monsieur, oui? Attendez, juste qu'on vous entende bien.
Merci.
C'est bon, ça marche, monsieur.
Du mouvement de la condition paternelle de Neuchâtel, Ces dernières années, 5 papas nous ont contactés concernant des enlèvements d'enfants. J'ai mis entre guillemets parce, pour les raisons que vous avez données. J'aimerais mettre une petite nuance sur ce que vous avez dit, Madame Guy et Cabert. Dans les 5 cas, c'était des Suissesses qui ont enlevé les enfants et des professionnels. Nous pensons, et les papas concernés pensent, que l'enlèvement a été pour tout simplement rompre le lien avec le papa. Et la meilleure façon de le faire, ou la façon la plus facile de le faire, c'était de quitter le territoire suisse. Un seul de ces cas a été pris en considération par les autorités fédérales, qui a d'ailleurs passé par vous. La médiation n'a pas fonctionné, mais le père avait été croché vraiment fort. Et dans tous les cas sauf un, donc 4 cas sauf un, ils avaient l'autorité parentale conjointe, ce qui a permis à ce que la Convention de La Haye et l'autorité française, dans un cas, agissent fortement. Dans les autres cas, rien ne s'est passé. Donc, les pères concernés ne voient plus leurs enfants. Je pourrais entrer peut-être dans plus de détails. Je pourrais dire.
Je ne sais pas si à ce stade-là, vous voulez déjà réagir.
Bon, il y a la question du juge de première instance. Parce que dans 3 des cas, le juge concerné, c'était le même juge dans 3 cas, n'a tout simplement pas agi, il n'a pas pris ce que nous considérons être sa responsabilité. Voilà. Donc ça n'a pas pu aller plus loin.
Alors face à la déresponsabilisation des juges, peut-être.
Oui. Ce n'est pas vraiment une question, c'est un constat, que vous faites. Et puis, je vous remercie parce que ça nuance ce que j'ai dit. Je propose qu'on n'aille peut-être pas forcément plus loin sur cette remarque. Mais en revanche, je ne voudrais pas peut-être prendre votre place, monsieur. Je l'ai dit,
mais peut-être que la convention. On pourrait peut-être. La convention de la Haye vient d'être évoquée. Peut-être redire concrètement qu'est-ce qu'elle stipule, d'accord, cette convention de la Haye.
En quelques mots, la convention de la Haye, c'est une convention qui est celle qui date de 1980, est une convention qui a été signée par énormément d'États, mais de loin pas tous les États malheureusement. Les États d'Asie du Sud-Ouest, on peut signer, les États du Maghreb non plus. Pour qu'une convention internationale puisse être mise en œuvre, il faut que les États aient ratifié la convention. C'est la première condition. Si on prend le cas que vous citiez, enfin qu'on a cité, de Marie, l'autre personne touchée par qui a participé à notre étude, effectivement, l'Algérie n'est pas signataire de la convention de la Haye. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'instrument proposé par la convention 1980. Et c'est quelque chose de très particulier. Ce qu'on a instauré, c'est le retour immédiat de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a prévu des procédures extrêmement rapides qui font que lorsque l'enfant a été enlevé, en dehors du lieu de sa résidence, très vite, on essaie d'en prendre des décisions avec des voies de recours très rapides pour qu'il revienne dans son état de résidence ordinaire. Alors, cette mesure, en fait, elle présente un certain nombre d'inconvénients. On statue dans l'urgence. Ce qu'on a voulu faire, ça je devrais le dire quand même, c'est éviter que la personne qui a enlevé l'enfant n'obtienne tout de suite une décision judiciaire dans son état d'origine en sa faveur, parce que c'est en général ce qui se passe. Donc on a voulu faire très vite pour que une décision ne soit pas prise et que l'enfant revienne à son domicile. L'inconvénient de la rapidité, c'est que on n'examine pas vraiment la situation. L'enfant, il était peut-être bien avec l'enfant, avec le parent qu'il a enlevé, il n'était pas forcément dans de mauvaises conditions. De même, Le retour n'est pas forcément une bonne solution. Il peut arriver à être accueilli dans un milieu qui n'est pas prêt à lui donner les soins nécessaires. Et aujourd'hui, avec les changements dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que ce soit souvent les mères qui enlèvent les enfants, la conséquence... Enfin, je ne vais pas revenir sur ce point-là, mais une des grandes difficultés aussi, c'est qu'on a un autre moyen que le moyen du droit, lié au droit international, à la Convention de la Haye, c'est le droit pénal. Le droit pénal sanctionne aussi les enlèvements des mineurs. Et le gros problème, c'est que si on ramène l'enfant à son lieu de résidence ordinaire, le parent menacé ou condamné, menacé d'une plainte pénale ou condamné, va bien sûr éviter de passer la frontière pour ne pas se faire rattraper. Et c'est la conséquence grave, c'est la rupture du lien entre l'enfant et le parent enleveur, ce qui n'est pas du tout souhaité. Donc là, je crois qu'on est dans une situation qui des moyens qui datent et sur lesquels il faut retravailler, avec toutes les difficultés de modifier, vous le savez, des conventions internationales, surtout dans un contexte, comme l'a dit ma collègue, qui est aussi changeant aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire de cette convention.
Moi, j'aimerais entendre peut-être Victor par rapport... Voilà, vous étiez dans cette situation. Est-ce que vous pouvez dire comment le cas... Enfin, ça n'a pas été résolu, mais quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat pour revoir votre fils maintenant? Comment est-ce que ça se passe maintenant?
Alors, en fait, moi, je n'étais pas dans une situation où je pouvais faire valoir la convention de la Haye, parce que justement, j'étais pas détenteur de l'autorité parentale conjointe. Voilà. Donc, le seul moyen pour moi, en fait, c'était d'essayer de faire une convention avec la mère, mais qui, au début, était totalement introuvable. On savait pas où est-ce qu'elle était. Et donc, l'autre moyen, c'était de faire une procédure en Suisse pour demander l'autorité parentale, la garde de l'enfant. Et ces éléments-là ont été balayés par la justice, parce que on demandait justement, en fait, on expliquait aussi que le pays où elle était allée, c'était pas un pays sûr, et donc eux, ils n'entraient pas en matière à ce niveau-là. Et puis, un troisième élément, c'est qu'ils ont pris beaucoup de temps pour délivrer une ordonnance, et en l'occurrence, à la fin de laquelle, ils ont dit qu'après 6 mois de résidence à l'étranger, ils considèrent que la nouvelle résidence de l'enfant est acquise. Donc, au niveau civil, on pouvait rien faire. Et puis au niveau pénal, on a fait une demande pour non-respect d'une décision de justice et qui s'est terminée avec 500 francs d'amende. Voilà. Donc ça, c'était les éléments juridiques. Mais le service social international, eux, ils préconisent justement de ne pas aller dans ce genre de direction pour ne pas braquer la mère et qu'elle parte encore plus loin, qu'elle se cache encore plus. Et donc, à côté de ça, il faut essayer de travailler l'inverse, c'est-à-dire la communication, le contact, mais il faut faire le point dans la poche, quoi.
Mm-hmm. Mais aujourd'hui, c'est depuis quand que vous battez, rappelez-nous?
Donc, en fait, l'enfant a été enlevé à 3 ans.
Il y a 3 ans, d'accord.
Donc, il est parti du jour au lendemain, il est parti... Mm-hmm. En pyjama, j'ai retrouvé l'hôtesse d'accueil qui s'était occupée du départ, et donc elle avait été surprise de voir cet enfant en pyjama. Donc c'était vraiment très brutal, une coupure comme ça. Et puis le retour, c'était la même chose. Donc 4 ans après, le retour en Suisse, pour mon grand bonheur évidemment, et celui de l'enfant. Mais je peux pas, c'est pas moi qui ai créé, je pense, ce retour aussi, tout comme le départ.
Mm-hmm. Voilà. Ah, je crois que madame... Vous avez un micro ici, madame Elisabeth.
Non, là, je voudrais dire quelque chose et en même temps... parce qu'on s'est posé la question dans la recherche qu'on a faite sur, au fond, quelles sont les réactions des parents victimes. Mm-hmm. Victor vous a dit, c'est l'enfer, quoi. C'est affreux. Ça doit être une expérience dont il est difficile de trouver des mots. Hein. Et... pardon. Alors, la palette des réactions... Je ne sais pas quelle est votre expérience, mais elle est évidemment assez large et ouverte. Y a des gens qui s'accommodent, se résignent. Hein. D'autres qui retournent la violence contre eux-mêmes, qui s'autodétruisent. Hein. Et il y en a plus qu'on ne croit. Il y en a d'autres qui s'enferment dans la tristesse, dans l'impuissance, dans la mélancolie abyssale. Et puis il y a certains autres, c'est pour ça que j'ai interpellé Victor, qui, bien que très très affectés, ne renoncent pas à faire valoir des droits. Entendez-moi bien, pas le droit, des droits. Ils sont affectés, ils sont traumatisés, et cependant, ils s'indignent devant l'injustice. Et j'insiste là-dessus, c'est pour ça que je trouve que tu t'auflagelles quand tu dis que tu n'as rien fait, c'est pas possible, quoi. Tu as fait énormément de choses. Et on n'a pas encore parlé des questions financières. Je vais pas y avoir, mais je voudrais quand même le signaler.
C'est important. Oui.
Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que bien qu'affectés, traumatisés, ils s'indignent devant l'injustice. Alors, nous avons travaillé avec un de mes collègues qui s'appelle Jean Demain, qui, je trouve, a introduit une nuance, moi, qui m'a beaucoup éclairée, et je pense que toi aussi, elle t'a beaucoup éclairée. Il nous a dit, mais au fond, il faut vraiment regarder de près. Un trauma, ce n'est pas une injustice. Un trauma, qu'est-ce que c'est ? Un trauma, c'est la conséquence psychique d'un événement dévastateur. Un trauma affecte la biographie d'un individu, son sentiment d'existence, sa définition de lui-même. Je crois que c'est bien ça que tu as vécu. Tu l'as dit plusieurs fois, et d'autres aussi. Hein. On ne se base pas uniquement sur Victor, mais Victor, il est là ce soir. Et quelle est la réponse au trauma ? La réponse au trauma, ben, ça consiste dans une thérapie menée par un clinicien, bien formé. Qu'est-ce que c'est qu'une injustice ? Ben, une injustice, c'est un événement public, social, politique, qui appelle une reconnaissance. Et une reconnaissance intersubjective, c'est-à-dire une reconnaissance dans la relation intersubjective. Elle est quoi ? C'est pas l'effet d'un affectif qui est brutalement démantelé. Ça, c'est un trauma, un affectif brutalement démantelé. Une injustice, qu'est-ce que c'est ? C'est, dans ce cas-là, une inadéquation entre un comportement et tout un ensemble d'attentes. C'est injuste, ce qui se passe. Et si une intervention professionnelle peut apaiser ou contribuer à apaiser cette disruption, elle vient nécessairement de représentants du droit. J'entends, en général, hein, de représentants du droit. Et donc, je trouve que de faire cette distinction du trauma et de la revendication juridique est très importante. Alors, la question que nous nous sommes posées, et c'est nous qui arrivons peut-être à mettre des mots là-dessus, parce que c'est notre métier, c'est comment est-ce qu'on passe du trauma à la revendication juridique ? C'est ça, au fond. Qu'est-ce qui fait ce processus ? Comment est-ce que les personnes qui sont dans cette position extrêmement traumatisante, bon, le trauma, ils vont le travailler en thérapie clinique, d'accord ? Mais comment est-ce qu'eux-mêmes arrivent à faire ce chemin-là ? Parce qu'il est question de ça. Parce que ce que les parents font, c'est que ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'envers et contre tout, ils ont voulu rester parents. Alors que tout allait pourtant dans l'autre sens et que ça leur coûtait très cher.
Vous voulez dire qu'il est plus facile en fait, d'abandonner plutôt que de se battre dans la revendication d'être parent ?
C'est une chose que je veux dire, mais ce n'est pas la chose principale. La chose principale que je veux dire, c'est que, alors même que le droit ne pouvait pas avoir de réponse suffisante, en tout cas, nous sommes confrontés à des personnes qui disent « mais nous, on veut faire valoir nos droits ». Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un travail qui est nécessaire, qui est à faire, c'est-à-dire une prise en considération des émotions, hein, mais il faut les canaliser. Ça, vous devez le savoir. Mais ce n'est pas de la thérapie, hein. Mais il y a une nécessité de canaliser les émotions, de leur donner une forme, de les rectifier délicatement et subtilement. Et il faut aussi se rendre compte que dans ces émotions, ce sont des émotions, comme l'a appelé John Elster, ce sont des émotions qui sont morales. C'est-à-dire que dans ces émotions, il y a une, Je sais que le mot, je ne peux pas l'employer dans ce... Je vais pas... je vais quand même l'employer tout en disant que c'est difficile d'employer. Il y a des normes, mais pas des normes juridiques, des normes sociales. Parce que si on a des émotions, c'est quand même qu'on éprouve une injustice par rapport à quelque chose, mais par rapport à quoi ? Et donc il y a une nécessité, peut-être pour que les parents arrivent à faire valoir leurs droits, c'est qu'ils arrivent à mettre en mots ce qu'ils trouvent injuste. Et injuste par rapport à quoi ? Et là, on va s'apercevoir peut-être qu'il y a effectivement des confrontations culturelles, de systèmes juridiques, de choses qui les dépassent fortement, pas uniquement de l'affectif. Et que là, ils ont une nécessité, dans leur trajet qu'ils ont fait, de trouver une manière tout à fait inventive, parce qu'ils parlent, vous avez remarqué comme ils parlent bien au niveau du droit, comme pendant ces années, il a appris le droit. C'est extraordinaire, hein ? C'est extraordinaire. En général, d'ailleurs, tous les parents qui ont eu des enfants enlevés deviennent des experts en discours juridique, enfin, d'experts entre guillemets. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est toute l'inventivité qu'il a eue pour faire valoir des droits. Et là, il invente, il bricole avec X, Y ou Z. Et en général, c'est ça qu'on trouve. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent bien le faire. Et donc, ils inventent. Là où il faut inventer. Voilà, ce serait trop complexe d'aller ailleurs.
Est-ce qu'il y a dans la salle... Oui, monsieur, je crois que... Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ? Oui ? Monsieur, attendez juste le micro, s'il vous plaît. Voilà, et après monsieur.
Merci. J'ai tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Donc je commence par me présenter. Donc je suis intervenant qui rencontre des papas qui vivent des situations difficiles. Et je constate, juste pour entrer sur la dernière chose que vous avez dite, c'est que le fait que leur femme leur fasse des crasses, ils le vivent mal, mais le fait que le système les laisse tomber, ça les anéantit. Ils sont absolument détruits de voir que les institutions de leur pays ne montrent aucun intérêt à leur situation et ne sont incapables ou n'ont pas envie de faire quelque chose. Hein. Et ça, tant dans le domaine d'un enlèvement qui a eu lieu que dans un domaine d'un enlèvement qui est imminent, vous voyez, où il ne se passe rien. Cette semaine encore, par hasard du calendrier, j'ai un papa qui a annoncé le départ prévu de ses enfants pour un pays très lointain, et le service de protection des mineurs lui a dit « Ah oui, mais au Brésil... » Il n'est pas en danger, ce n'est pas un pays en guerre. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Alors que les enfants lui ont rapporté une date de départ prévue. Ça, c'est la réaction de l'autorité qui peut faire quelque chose. Ça, c'est terrible. Vous voyez, le fait, ça, c'est de la prévention aussi. On n'a pas parlé de la prévention des enlèvements. J'aimerais aussi dire que vous avez cité, donc je ne sais pas un chiffre, de l'ordre de 300 personnes, de 300 enfants qui sont enlevés en Suisse. J'aimerais en citer un autre, parce que 300, c'est peu. Il y a 14 000 enfants, selon nos calculs, qui sont en Suisse, mais qui ont été enlevés de leur père et qui ne voient plus du tout leur papa. Et c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'aliénation parentale, ou disons le conflit de loyauté qui est exercé. Alors quand on parle de rapidité des rapatriements, le plus rapide que j'ai vu, c'était 6 mois. Je ne trouve pas ça très rapide. Et ce temps est destructif pour l'enfant. Et nous avons parlé de ce que peut ressentir le père. Je ne suis pas spécialiste des enfants. Mais j'ai de la peine à savoir ce que les enfants, eux, vivent dans ces situations-là. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je crois que j'ai déjà suffisamment dit de choses.
Oui. Effectivement, ça s'inscrivait dans la liste des questions qui étaient possibles, hein, tout ce que vous avez évoqué. Alors, reprendre... Oui, mais d'abord, peut-être que vous voulez réagir par rapport à ce que dit monsieur. Donc, peut-être le rapatriement n'est peut-être pas suffisant, justement, par rapport aux mesures qui sont prises. et comment faire valoir de nouveau un droit de visite à la personne qui est lésée.
Peut-être, mais la première chose qui me semble que vous avez dit, c'est qu'effectivement, ces personnes souffrent de ne pas... que leur, cette injustice ne soit pas reconnue, quoi. Et ça, je crois que ça doit faire des dégâts personnels, ça, c'est sûr. Maintenant, je pense quand même qu'il y a des réponses, hein. Mais ça, c'est pas tellement mon domaine, je ne sais pas s'il faut y arriver maintenant, mais c'est... Je pense que le droit a des réponses aussi... Par exemple, la Convention de La Haye propose des médiations.
Et peut-être donc, aussi dans la question de monsieur, un autre aspect très important, l'intérêt de l'enfant. Peut-être qu'on peut, on peut aborder à ce stade quand même le personnage principal du conflit.
Oui. Effectivement, dans ce domaine des enlèvements parentaux d'enfants, comme dans de nombreux autres touchant à l'enfant, on est dans une situation très particulière, hein, puisqu'on a une norme qui est une norme de droit, une règle de droit international qu'on trouve dans la Convention des Nations Unies concernant les droits de l'enfant et qui pose un principe très important qui est le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mmh. Alors là encore, je vais m'exprimer en juriste. Quand un juge doit se prononcer, doit dire ce qu'est l'intérêt supérieur de l'enfant dans une situation, comment est-ce qu'il va procéder ? Il va procéder comme un juge procède, c'est-à-dire qu'il va essayer autant que possible d'établir une situation de fait. Qu'est-ce qui se passe dans les familles ? Les preuves qui doivent être administrées sont des preuves... Qui sont difficiles à trouver parce que c'est des situations qui se passent dans la vie privée des gens dans lesquelles on ne peut pas être intrusif. Alors, quel est le moyen de preuve dont dispose le juge ? En général, c'est des expertises, hein, des expertises qui peuvent être des expertises, souvent des expertises sociales ou des expertises médicales. Donc là, on va essayer d'établir une situation de fait. Et puis, pour savoir où est l'intérêt supérieur de l'enfant par rapport à cette situation de fait, que va faire le juge ? Il va recourir à la jurisprudence. Il y a beaucoup de jurisprudence, hein, d'application de la Convention des droits de l'enfant.
Excusez-moi, très concrètement, est-ce qu'on demande l'avis de l'enfant ? Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Ça dépend de son âge. Alors, comment est-ce qu'on évalue s'il est bien ou pas, cet enfant, dans la situation ?
C'est une question très importante, mais je vous propose d'y répondre, tout à l'heure. Ce que va faire le juge, c'est qu'il va comparer la situation dont il s'occupe avec des cas de jurisprudence précédente. Donc, on va recourir à des normes et à des jurisprudences qui sont très externes quand même à la situation. Et c'est là que la médiation peut justement apporter quelque chose de très nouveau. Pourquoi ? Parce qu'en médiation, on ne va pas recourir à la jurisprudence, à l'assimilation, à des précédents, à des cas qui se sont déjà déroulés, mais on va ensemble construire la situation, ensemble problématiser. Puis là, j'aimerais vraiment passer le micro à ma collègue qui saura bien mieux expliquer que moi ce qu'il en est.
Allez-y.
Bon. oui. Enfin, je ne sais pas si ça répond à vos interrogations, hein, mais la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont fait un enlèvement, ce n'est pas un acte qui va dans le sens de la médiation. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est qu'en général, quand on enlève, c'est un passage à l'acte. On ne sait plus se parler. On voit pas d'autre, on n'a pas d'autre issue que de passer à l'acte. Je voudrais aussi dire, par honnêteté intellectuelle, que nous avons travaillé uniquement avec des parents victimes, d'une certaine manière. Donc on n'a pas rencontré, nous, vous peut-être, des parents qui ont été des auteurs de rapt. Ce qui m'a frappé en allant dans certains colloques où j'ai entendu parler d'autres collègues, il semblait que les gens qui enlèvent les enfants ne parlent pas d'enlèvement, eux. Ils ne parlent pas d'enlèvement. Ils ont simplement été avec l'enfant et puis ils ont le droit de le faire et puis ce n'est pas un enlèvement, quoi. Donc, même pas au niveau juridique ou pas juridique. Quoi. Ils n'appellent pas ça dans leur langage ordinaire, je dirais qu'ils n'appellent pas ça enlèvement. Donc, comment amener des parents à une médiation? Parce qu'au fond, l'intérêt de la médiation, nous pensons, sociologues du droit, nous pensons que la médiation, c'est un dispositif extrêmement intéressant qui est une réponse à toutes ces difficultés. C'est très complexe comme objet, hein. Je crois qu'il faudrait beaucoup de temps pour arriver à toucher cette complexité. Je ne vais pas rentrer trop dans la complexité maintenant, mais c'est très complexe.
Est-ce que vous arrivez à illustrer par un exemple?
Oui, peut-être justement. Donc, en admettant, faisons une fiction, hein, que A et B, qui pourtant ont vécu un enlèvement, se rencontrent dans une médiation et qu'ils acceptent de se parler, de prendre la parole. Donc, Madame l'a dit tout à l'heure qu'il fallait d'abord peut-être travailler avec l'un et avec l'autre. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je rentre juste dans le processus éventuel. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? On demande aux parents de parler. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Et surtout, j'imagine que, je ne sais pas, Victor, mais peut-être que tu auras envie de demander à la maman de ton fils, mais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi ? Quel sens tu donnes à ton acte ? Parce que c'est ça qui est affreux, c'est qu'on ne comprend pas. Donc la première chose, c'est la narration. C'est-à-dire qu'on raconte ce qui se passe. Et puis après, c'est ce qu'on peut appeler l'interprétation, c'est-à-dire quel sens on donne à un acte. Et là, on peut être très surpris, parce que les gens peuvent donner des sens très très différents à un même acte. Je n'ai pas enlevé l'enfant, moi. Comment tu ne l'as pas enlevé ? Tu appelles ça comment ? Ben, je n'appelle pas ça comme ça. Donc ça, c'est d'abord la narration. Et puis, c'est l'interprétation, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on n'est jamais à objectiver uniquement des faits, que les faits sont, c'est toujours des interactions et qu'il y a toujours une certaine interprétation qu'on peut faire. C'est nécessaire. Je continue. Donc d'abord la narration, et puis l'interprétation, et puis la justification. C'est-à-dire, bon, tu donnes tel sens aux faits, mais justifie un peu. Justifie, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Et justement... Attendez, excusez-moi, c'est mon côté un peu prof autoritaire, mais je voudrais quand même que vous attendiez une minute.
Mais on parlait, alors, excusez-moi, juste pour dire, on parlait de l'intérêt de l'enfant.
Voilà. J'allais arriver.
Parce qu'il y a encore des questions dans la salle.
J'allais y arriver. Donc, justifier, il est possible, par exemple, que le père ou la mère disent « mais j'ai fait ça dans l'intérêt de l'enfant ». Tous les deux. Alors, qu'est-ce qui nous manque à ce moment-là ? Je vous ai dit que je m'intéressais au discours. Hein ? On est dans les discours. À ce moment-là, le médiateur, il va susciter un autre discours. Il va dire « bon, argumentez ». Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est pour vous l'intérêt de l'enfant ? L'intérêt de l'enfant, c'est de rentrer au pays avec son père et de connaître un peu les lois et notre manière de vivre chez nous au Maghreb. On sait ce que c'est qu'un père, on sait ce que c'est qu'un homme, vous, en Occident, on voit où ça vous mène. Bon, d'accord, il a le droit de dire ça. Et puis la mère, elle va dire, attends, on s'est mariés, on a eu un enfant ensemble, tu peux dire tout ce que tu veux, il faut quand même faire qu'avec maintenant. Tu ne peux pas comme ça décider tout seul. Moi, je trouve que l'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir une... Et elle va dire autre chose. Et puis qu'ils se rendent compte, l'un et l'autre, comment ils ont construit le conflit. Comment ils ont construit le conflit. Et à ce moment-là, peut-être... C'est-à-dire qu'ils explorent leur conflit. Vous comprenez? Et à ce moment-là, peut-être, de pouvoir trouver et créer des solutions. Et inventer des solutions. Parce qu'il n'y en existe pas. C'est un lieu de création... Inventer des solutions. Alors, en quoi est-ce que la médiation est aussi très, très intéressante ? C'est qu'il ne pose pas un système juridique comme étant le seul système juridique posé a priori dans lequel on doit travailler. Et ça, c'est une très, très grande richesse. Donc, j'espère avoir montré que l'intérêt de l'enfant peut être interprété de façon très différente, surtout dans un monde pluriel comme le nôtre. Et donc, la démocratie, entre guillemets, c'est un grand mot, mais exige qu'on prenne en considération ces différents mondes. Et qu'est-ce qu'on va en faire de cette pluralité ?
Voilà. Peut-être la réponse va être donnée par Madame Jaeger. Est-ce que vous dans votre pratique, comment est-ce que vous procédez pour évaluer l'intérêt de l'enfant dans le cadre de, si vous avez eu affaire à à des enlèvements internationaux. Est-ce que vous avez quelques exemples en tête? Comment est-ce que vous avez procédé pour évaluer et peut-être changer d'avis, se dire « Ah, mais finalement, c'était peut-être pas si mal que ça qu'il soit parti avec l'autre parent parce qu'il est dans des meilleures conditions. » Est-ce que ça vous est arrivé?
Oui, ça m'est arrivé. Justement, dans une situation qu'un des parents venait du Maghreb et la maman est partie avec l'enfant suisse. Et finalement, ils ont trouvé une solution que l'enfant puisse rester en Suisse.
C'est quelqu'un qui est parti de l'étranger, c'est une maman qui est partie de l'étranger pour venir en Suisse.
Voilà, il retourne en Suisse avec l'enfant. Il y avait une médiation qui a eu lieu en Suisse. Et ce papa, finalement, il a dit oui, je comprends. Et je crois, pour le bien de l'enfant, c'est mieux que cet enfant reste en Suisse. Mais j'aimerais bien avoir le contact. Et là, finalement, on a réussi à trouver une solution. Comment ce contact se pratique maintenant?
Donc ça veut dire que quelque part, le droit occidental a gagné sur le droit de l'autre partie?
Ce n'est pas un gain. Je crois que les parents, ils ont trouvé une solution qui était réfléchie et raisonnée autour du bien-être de l'enfant. Monsieur.
Oui. Oui, et puis après il y a monsieur.
Comment est-ce que ça se passe après? Parce que ça demande presque un suivi, c'est quelque chose de délicat qui a pu se faire, et il y a quand même beaucoup de forces aussi qui vont de nouveau saper le consensus qui a été créé. Est-ce qu'il y a un suivi ensuite? Comment ça se passe?
Donc ça dépend un peu les gens. Donc si un accord, si on trouve un médiation, un accord, je le mets en mots, et les parents le signent et je l'envoie à la centrale à Berne ou au juge qui m'a envoyé les gens en médiation. Et ça, c'est vraiment pas du tout juridique. Non, je ne veux pas dire pas du tout juridique. Je connais quand même le cadre juridique. Hein. Par exemple, je ne peux pas dire à une personne, je ne peux pas mentir à un père qui vient d'un pays du cercle 3. Donc, il n'y a pas un permis de séjour qu'il pourrait venir habiter en Suisse pour avoir contact avec son enfant. Donc, à la limite, on dit, voilà, il aimerait bien demander la permission. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Un droit de visite si cette permission n'est pas donnée. Et ce genre de choses, j'écris dans l'accord et les gens, ils signent et ils reçoivent aussi une copie. Et c'est envoyé au juge et c'est lui qui fait le nécessaire pour valoriser ça, pour homologuer. J'ai des gens qui n'étaient pas aussi loin, pas aussi éloignés l'un de l'autre, donc c'était des pays autour de la Suisse, qui ont dit, voilà, tous ces processus juridiques ont été terminés, éliminés, mais on aimerait bien continuer de parler de nos difficultés de communication chez vous. Et c'est là que c'est aussi un impact financier, hein, ce que Victor a aussi dit tout à l'heure, c'est cher. Et la médiation n'est pas gratuite. Cette situation que je réfléchis à l'instant, je pense à l'instant, c'est une situation que la médiation était payée par l'État et donc eux, ils étaient d'accord de continuer chez moi et de payer eux-mêmes.
Il y avait monsieur qui avait une question ici.
Merci. Oui, moi j'ai une question par rapport à ce qui a été dit en tout début, Madame Volkrieg, vous avez parlé, c'est un terme qui m'a interpellé en bien. On a beaucoup parlé de l'enlèvement d'enfants donc avéré et un peu maintenant du suivi. Eh bien, un terme que vous avez mentionné également, c'est la prévention. Vous avez dit donc en Belgique, sur 400 cas déclarés bien évidemment, il y a à peu près 250 avérés et le reste c'est des cas où on veut faire de la prévention. Alors la question que je pose moi c'est comment faire de la prévention? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour que ça fonctionne? Quels sont les outils? Ça, c'est ma première question, la première partie de ma question. Ma deuxième question, elle est plutôt adressée à professeur Guillet-Cabert et à madame Jäger. C'est pour la Suisse, finalement. Est-ce qu'on fait de la prévention? Et si oui, comment? Voilà.
Alors, je crois qu'on va entamer un beau tour de table avec cette thématique, effectivement. Donc, Madame Volkrieg, d'abord, et puisque vous avez été...
C'est intéressant parce que je n'ai pas interprété les chiffres de le Child Focus comme ça. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a, donc, dans les 40 dossiers, des 150 qui sont la prévention. Moi, j'ai entendu ça comme étant des dossiers qui étaient ouverts parce que précisément, ils avaient peur qu'il y ait un enlèvement, mais qu'il n'y a pas eu d'enlèvement. Mm-hmm. Alors, au niveau de la prévention, si on veut rester dans la médiation familiale, je crois que c'est un lieu qui est intéressant pour que les parents... Quand les gens vont chez le médiateur, c'est qu'ils n'arrivent plus à se parler. Et on sait bien que quand on se dispute, les mots n'ont plus de poids, blessent. On n'arrive plus à se parler. Donc on a besoin de quelqu'un qui soit tiers, parce qu'un médiateur est un tiers, qui soit tiers dans le conflit et qui. Alors là, il y a plusieurs manières de penser la médiation. Je pense que la médiation, malheureusement, c'est très fort instrumentalisé. C'est-à-dire qu'alors elle se limite à trouver des solutions à un problème, problème solving, et on trouve des méthodes et on enseigne des méthodes qui vous permettent d'avoir des solutions à des problèmes. Bon, c'est bien d'avoir des solutions à un problème, il ne faut pas jeter ça, mais je pense que ce qui est nécessaire pour qu'il y ait une médiation, c'est que les gens comprennent le conflit dans lequel ils sont. Comprennent de quoi est fait leur conflit. Et ce n'est pas comprendre l'autre, parce que ça, c'est de l'empathie, etc., c'est important, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de comprendre soi-même comment on construit le conflit, à partir de quelle normativité qui est la nôtre, une normativité sociale. On est pétrifié d'évidence, souvent, et ces évidences sautent à partir du moment où on est dans des liens... Par exemple, ces gens qui font. Des gens qui sont d'accord, comme toi, Victor, pour vivre dans des relations binationales, par exemple, il faut quand même se rendre compte qu'ils font le choix d'être une identité plurielle. Et qu'ils sont confrontés tout le temps à des sortes de compromis qu'ils doivent faire, de négociations, de choix. Est-ce que je fais des compromis sur ce terrain-là ou sur ce terrain-là ? Et à un moment donné, ils peuvent avoir besoin d'aide. Et s'ils ne vont pas trouver les bonnes personnes pour se faire aider, pour leur apprendre peut-être à gérer tout ça, par exemple dans une médiation, ben à un moment donné, on peut très très bien comprendre qu'à un moment donné, ça casse qu'il y a un des deux, ne supporte plus peut-être tous les compromis qu'il est amené à faire, et passe à l'acte avec un enlèvement d'enfant.
Mais avant le passage à l'acte, il y a souvent des menaces. Alors est-ce que si quelqu'un... peut-être l'autre parent ou bien quelqu'un de la famille sent que la marmite chauffe et qu'il y a des menaces d'enlèvement qui sont proférées, à qui cette personne peut s'adresser et est-ce qu'elle va être prise au sérieux? Il me semble que dans le livre, dans le cas de Marie, il y a eu des menaces, mais est-ce qu'elles ont été traitées, pas traitées? Est-ce qu'on a laissé faire?
Je crois que la réponse, on l'a déjà entendue dans la bouche d'une des personnes qui s'est exprimée tout à l'heure. C'est très difficile d'obtenir, enfin parfois difficile d'obtenir une réaction des institutions publiques. Quelle explication donner à ça? Il y en a certainement beaucoup, probablement beaucoup de cas traités, trop peu de personnel, peut-être du personnel pas assez formé. Je crois qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. D'activer dans une perspective de prévention une administration, c'est très difficile. Il faut voir que les acteurs publics ne sont pas les seuls acteurs sociaux. Il y a toutes sortes d'autres acteurs. Et vous, messieurs, qui représentez des mouvements proches de la condition paternelle, vous êtes des acteurs sociaux. Et je pense que le développement de la médiation familiale et de la médiation familiale internationale passe par vos associations aussi. Et qu'il y a tout un travail de fond que vous pouvez faire, que vous pouvez mettre en œuvre. C'est ma première réponse. Maintenant, est-ce que la médiation est gratuite en Suisse? La réponse est malheureusement non. Non, la réponse... elle l'est à titre tout à fait exceptionnel. Je ne vais peut-être pas donner d'exemple juridique. Et ça, c'est une énorme difficulté qu'on vit ici. Il y a quelques cantons, quand même, le canton du Jura, le canton de Fribourg, parce que ça fait partie des compétences cantonales qui offrent ces prestations à la messe. C'est une minorité de cantons dans toute la Suisse. Et là, il y a un travail à faire pour que ce premier petit fil de confiance qui peut être établi entre le médiateur ou la médiatrice et les parents puisse s'élaborer gratuitement. Ce n'est pas qu'une question économique, c'en est aussi une, hein, parce qu'on a vu, on l'a pas vraiment dit, mais on sait que des procédures comme celle qu'a vécue Victor coûtent une fortune, qu'on y laisse une fortune. Mais il y a quelque chose de plus fort et de plus symbolique hein, dans la création d'un lien de confiance dans un climat où on ne doit pas payer, me semble-t-il. Mais peut-être que Mme Jäger voudrait dire quelque chose de plus.
Oui, en fait, beaucoup de choses étaient déjà dites là-dessus. J'habite ou je travaille dans un canton, on a cette possibilité et je vois que les gens, s'ils arrivent chez moi, il y a au moins déjà ce souci qui est loin. Donc c'est un petit souci de moi qui est là. Et je trouve que c'est avantageux. La crainte des autorités, c'est souvent qu'on finalement en profite et on n'avance pas. Alors en fait, de devoir payer de sa propre poche, ça met une certaine pression. L'expérience que moi je fais, c'est pas du tout le cas que les gens ils utilisent la médiation pour faire traîner l'affaire. C'est aussi dans mes compétences à moi, de dire voilà, mais écoutez, là, j'ai l'impression que la médiation est utilisée pour quelque chose d'autre que de clarifier la situation. Donc, de donner la possibilité pour des gens qui ont déjà des énormes dépenses avec les avocats, les procès, tout ça, donner la possibilité que la médiation soit soutenu financièrement ou gratuit, ça serait vraiment quelque chose de bien.
Moi, j'aimerais juste revenir sur la prévention et peut-être entendre Victor au vu de son expérience. Est-ce que vous avez eu dans votre cas des signes avant-coureurs qui pouvaient vous éveiller vos soupçons de risque d'enlèvement quand vous y repensez?
Oui, alors c'est une bonne question. Et puis, en effet, une fois, elle avait dit qu'elle allait partir, qu'elle allait quitter le pays. Mais voilà, j'étais un peu naïf et puis j'ai pas pris ça argent comptant. Et puis bien mal m'en a pris en fait. En prévention, ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, dès que le risque en fait, il existe. Et puis si il commence à y avoir des conflits, la médiation c'est une chose. Mais le lien avec l'autre famille est important. Voilà, parce que s'il y a un enlèvement, il faudrait essayer de pouvoir travailler avec la famille, la belle famille, oui. Pour mettre un peu de pression ou contacter l'autre personne. Et là, c'est vrai que plus il y aura de contacts avec la belle famille, en Suisse ou à l'étranger, mieux c'est. Et puis évidemment, une photocopie des pièces d'identité, ou même les garder, ça c'est un moyen de prévention plus fort, quoi. Voilà.
Mais pour quelle raison
Parce qu'on voyage avec un passeport, on voyage avec un document d'identité, bien sûr. Ouais, on peut aller dans un consulat pour en refaire un, mais détenir en tout cas une copie ou quoi que ce soit, d'accord, pour pouvoir après annoncer la chose ailleurs, c'est important.
Mm-hmm. Oui, monsieur. Attendez, le micro.
Nous sommes un peu dépourvus dans les mouvements de la condition paternelle à savoir comment conseiller quand il y a, si c'est la prévention, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Hein, s'il y a le sens que peut-être il y a un risque qu'un enfant soit enlevé. Une fois qu'il y a eu l'enlèvement, nous sommes dépourvus parce que, d'une part, nous sommes convaincus des effets extrêmement positifs de la médiation familiale, ce que nous recommandons généralement dans tous les cas. À Neuchâtel, 80% des cas qui passent par l'Association neuchâteloise de médiation familiale arrivent avec des conventions sur tous les points qui sont consensuelles. Donc ça, on n'a pas de problème avec la médiation. Mais le problème vient quand il y a un enlèvement, parce que vous l'avez bien dit, il y a cette jurisprudence, entre guillemets, qui dit qu'après 6 mois qu'un enfant est dans un autre pays, la justice reconnaît que l'enfant a un nouveau domicile, hein, et puis on ne veut pas perturber pour qu'il rentre, premier point. Donc, est-ce qu'on saisit la justice pour protéger son droit? Parce qu'il me semble que selon la Convention de la Haye, si on ne fait rien pendant 6 mois, ça chute. Alors, on est coincé. Et j'aimerais demander la question à vous, madame. Dans quel pourcentage de cas où il y a eu des enlèvements, est-ce qu'il y a eu un accord qui a été trouvé, qui était consensuel et satisfaisant pour les deux parents, et dans quel délai? Merci.
Peut-être d'abord cette question.
Alors, il faut peut-être d'abord préciser qu'il n'y en a pas beaucoup de situations qui arrivent en médiation internationale. Et moi, je peux parler seulement de mon expérience à moi. Et là, ça dépend un peu les années, je peux vous dire, à peu près 50%, on a quand même trouvé un accord sur les plupart des points, oui.
Et avec quel délai?
Ah oui, le délai aussi. Donc, les médiations se font normalement sur 10 jours, à peu près. Ça peut aussi être inclus un week-end. J'ai toujours besoin d'une semaine de vacances après. Mais c'est vraiment très intense. Pour moi, je peux rentrer chez moi et j'ai la paix, mais pour les gens, pour les parents, c'est très, très prenant. C'est vraiment... C'est incroyable ce qu'ils vivent, ces moments-là. Mais en fait, ce délai est assez court chez moi, souvent aussi à cause des visas que les gens qui doivent venir en Suisse, ils reçoivent pour un certain temps, surtout s'ils n'ont pas de l'argent. Mais jusqu'à ce que cette médiation peut commencer, il y a énormément de temps qui passe. Donc, on essaie de faire un contact avec Skype, avec l'enfant, et des trucs comme ça, qui est assez souvent mon expérience accordée. Donc, la maman ou le papa sont d'accord de le faire. Mais après, il y a question de l'argent. Est-ce qu'on a assez d'argent pour rentrer en Suisse, acheter un billet d'avion? C'était des choses complètement banales pour nous, mais... Il faut payer un billet d'avion, il faut avoir un visa pour venir en Suisse, il faut pouvoir prouver qu'on a les moyens de vivre ces 10 jours, donc un hôtel, il faut prouver qu'on repart après de nouveau. Donc c'est tous en fait des obstacles à dépasser qui font que ce processus est très long.
Et le contraire, c'est-à-dire que le parent lésé va rechercher son enfant dans l'autre pays? C'est arrivé ou ça...
Moi, c'est pas moi qui ont fait ces médiations. Je l'ai fait en Suisse.
D'accord. Par rapport aux questions, peut-être Madame Guillet-Cabert, par rapport aux questions, que fait-on concrètement une fois qu'il y a eu l'enlèvement? Est-ce qu'il y aurait une checklist? Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner?
Ça existe certainement, les checklists, oui. J'ai un tout petit peu perdu le fil parce que j'écoutais attentivement Madame Jäger.
Oui, bon, la question, si je résume, monsieur, c'était qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il y a eu le passage à l'acte? Des 6 mois, voilà. Il y a 6 mois de délai, il faut réagir avant 6 mois.
Il y a 6 mois.
Il faut réagir vite.
Il faut réagir vite, effectivement. Il n'y a pas d'autre solution.
Mais on se tourne vers qui, dans ce cas-là?
Mais on se tourne vers l'autorité centrale pour la saisir, ça c'est sûr. Mais je crois que c'est quand même peut-être on approche un petit peu de la fin de notre débat. C'est vrai que cet événement du passage à l'acte, que constitue l'enlèvement de l'enfant, C'est une situation de rupture totale. Et puis je pense que chacun ici, même les plus idéalistes, savent que dans des situations comme celle-là, la médiation sera très difficile à mettre en œuvre. Et je pense que les efforts doivent porter sur le fait de la ramener. Lorsque, y a, comme vous le disiez, on sent que les choses ne vont plus. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a une chose très importante, c'est que l'information sur la médiation doit être faite par les médiateurs. Et que seuls les médiateurs ont la capacité de toucher les personnes là où elles peuvent communiquer. Personnellement, je ne crois pas à l'information par l'administration. Je ne crois pas même à l'information par le juge. Je pense que ce n'est pas le rôle du juge. Et là, je pense qu'il y aurait quand même une première marche à faire aujourd'hui pour essayer de renégocier avec les autorités cantonales. Ici, je vais m'exprimer en tant que membre de l'association neuchâteloise Médiane. Il y a combien d'années que le canton de Neuchâtel a, c'était encore sous le ministère de Jean Studer, hein, a mis en consultation un projet de loi d'introduction de la médiation, 5 ans. On s'est battu, on a rencontré Jean Studer, hein, on a fait des propositions, et puis on a, bon, Jean Studer a été remplacé par un successeur, hein, et jamais on a obtenu que les choses bougent. Hein. Et là, je pense quand même que c'est vraiment un combat qu'il faudrait reprendre, puisque c'est de la compétence des cantons, là, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Et que c'est un premier pas à faire et que les associations concernées pourraient prendre en charge ce premier pas. Oui.
Pourquoi dites-vous que c'est de la compétence des cantons ? Il y a eu, je ne sais pas, au moins 4 motions parlementaires au niveau fédéral sur la médiation, sur la promotion de la médiation différente. Elles ont chaque fois été rejetées.
Oui.
Et donc, ça veut dire que la Confédération pourrait aussi faire quelque chose. Et même dans le dernier loi de la famille, exhorter à la médiation, oui. C'est plus faible que ça, c'est difficile. Hein.
Effectivement. Bon, je ne suis pas une très bonne constitutionnaliste, mais je pense quand même que ces questions-là ne sont pas des questions de procédure au sens pur du terme, c'est ce qui en tout cas a été admis d'une façon générale, et puis qu'il appartient justement aux cantons de mettre en œuvre, c'est leur tâche, enfin que les cantons ont des tâches d'organisation qui incorporent justement cette prise en charge financière de la médiation. Et pour moi, c'est une porte d'entrée qui est extrêmement, extrêmement importante. Oui,
monsieur, juste le micro.
Nous sommes bien d'accord que le plus grand coût, il est humain en termes de souffrance psychologique pour l'éloignement. Mais vous évoquiez l'aspect coût financier, notamment pour les frais engagés pour la procédure, dont on sait qu'elle est temporaire, même si elle dure très très longtemps. Il y a un autre aspect sur le coût financier qui est lui récurrent et qu'on appelle une pension. On sait qu'en Suisse, on vit confortablement par rapport au reste du monde et qu'une pension déterminée ici sur les critères des besoins financiers pour un enfant se font avec des sommes qui se retrouvent à la conséquence de ce calcul, qui sont énormes par rapport à ce que le parent qui se rend responsable de l'enlèvement peut obtenir dans des pays à un niveau de vie bien inférieur au nôtre. D'autant plus que vous soulignez tout à l'heure, Madame Guillet et Cabert, que ça se faisait souvent avec dans des cas de couples mixtes, avec des pays avec côté culturel. Et donc, quand il y a ce côté culturel, il y a aussi un niveau de pauvreté dans ces pays, puis en voie de développement, comme on le dit. L'obligation de continuer à payer une pension pour le parent qui est dans la souffrance de l'éloignement de son enfant, quand bien même il ne le voit plus et qu'il ne peut pas bénéficier de ce droit de visite, je ne contrebalance pas le versement d'une pension avec le droit à la visite, n'est-il pas d'une part un facteur déclenchant par l'opportunité qu'il crée de créer une forme de confort financier du point de vue du parent qui sera responsable de l'enlèvement, et n'est-il pas un moyen de garantir le non-retour de l'enfant. Je connais un cas comme ça, 4 ans. Et finalement, que ce soit au niveau fédéral, principalement, je pense, je ne suis pas constitutionnaliste, encore moins que vous, ne pourrions-nous pas, nous, agir dans un contexte où ben, c'est quand même la Suisse qui décide un petit peu du droit et de sa pratique, pour certaines choses, tout au moins, pourrait-on pas imaginer qu'il y ait un petit peu moins de facilité à maintenir le versement d'une pension dans un tel cas? Parce qu'on sait que c'est un moteur à l'enlèvement, de non-retour, même si d'un autre côté, je comprends, si on se fait l'avocat du diable, on peut s'imaginer aussi qu'on peut à ce moment-là créer une situation plus difficile pour l'enfant et le parent qui les a enlevés si on coupe le moyen de subvenir à leurs besoins dans le pays plus pauvre. Donc il y a toujours du pour et du contre dans les deux cas de figure, mais finalement, ne pourrions-pas nous agir? Parce que je pense qu'il y a clairement le pour qui pèse. Donc moi, je suis plutôt d'avis qu'il faudrait faire en sorte qu'on arrête la pension dans ce cas de figure. Voilà, je m'excuse pour ma question qui est trop longue.
Non, mais... c'est une question très importante que vous posez là. Alors, je ne suis pas une bonne constitutionnaliste. Je ne suis pas du tout une spécialiste du droit de la famille ou du droit du divorce non plus. Mais je vais essayer quand même de répondre à votre question. Alors, ce que vous avez dit est clairement juste. Hein. C'est pas je verse la pension pour voir l'enfant. Là, l'échange, il est pas là. Et puis vous avez dit aussi avec beaucoup de sagesse que supprimer complètement la pension d'un enfant, ça pourrait être dramatique pour lui, parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent faire que, de toute façon, la mère ne va pas revenir. Ce que je répondrais d'instinct, puis avec des toutes très vieilles connaissances, mais il y a ici quelques personnes qui sont certainement bien plus au courant que moi de ces situations-là, il me semble, mais c'est ma logique personnelle, que dans des situations comme celle-là, lorsque durablement la mère s'établit à l'étranger, ça pourrait justifier des circonstances nouvelles permettant la réduction de la pension. Maintenant, est-ce que c'est un bon moyen, ce moyen-là? Peut-être dans certains cas. Et puis c'est là que toujours il faut procéder à une analyse vraiment complète de la situation, des risques qu'on prend en procédant de cette façon-là. Mais il me semble que la voie est ouverte pour obtenir une révision, une modification du jugement de divorce. Mais je ne sais pas si...
On a un exemple vécu par cette question de la pension alimentaire.
C'est vraiment une très bonne question. Et c'est aussi un élément vraiment important. Donc, vous vivez un enlèvement. Dessus, la justice, visiblement, la justice suisse, suivant les cas, elle ne va pas suivre. Et par contre, il faut continuer de payer la pension alimentaire. C'est un traumatisme en plus de l'injustice et du premier traumatisme. Là, on est dans le c'est un sketch, quoi. C'est monstrueux. Et puis, alors on peut la diminuer, logiquement, par procédure. Mais c'est une technique du Service social international de dire on garde ça comme dernière arme. Quand vraiment plus rien n'a été possible. Voilà. Mais par contre, on peut l'utiliser au début, après l'enlèvement, en soi-même, en diminuant la pension, on laisse un petit peu pour vivre sur place dans l'autre pays. Et comme ça, généralement, ça fait sortir l'autre personne du trou, parce qu'elle a le droit d'ouvrir une action, parce que la pension alimentaire, elle a pas. Et à ce moment-là, on va pouvoir un peu entrer en disant « Ok, mais là, maintenant, on va devoir discuter. »
Ce que vous préconisez ici, c'est donc de, unilatéralement, sans autorisation de la justice, le parent victime de l'enlèvement prend la décision, alors qu'il a l'obligation normalement de continuer à verser une pension d'un montant déjà établi, de le baisser pour obliger à sortir le parent coupable, de sortir du bois et puis finalement se montrer juridiquement, apparaître dans la procédure.
Exactement. Okay. Stratégiquement, ça peut se montrer positif.
C'est ce que vous avez fait ?
C'est ce que j'ai fait, oui. Et vu que je ne savais pas où était partie la mère, elle est sortie du bois, voilà, comme ça. Parce qu'elle a ouvert une procédure.
Voilà. Je comprends tout à l'heure le propos de Madame Volkrieg. Vous avez été très inventif.
Je crois qu'on arrive malheureusement un peu au terme de cette discussion. J'aimerais juste, puisque Victor a la parole, je vais lui laisser le début des mots de la fin, peut-être très brièvement, en 30 secondes, dire votre ressenti maintenant par rapport à votre vécu. Est-ce que vous souhaitez comment les choses évoluent, comment elles changent.
Alors bon, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui évolue. Le fait d'avoir pu participer à un café scientifique, c'était vraiment... un colloque scientifique, ça m'a permis de sortir mes émotions. Donc ça, c'était vraiment une très très bonne chose. Ça évolue au niveau du droit de la famille en Suisse un petit peu, mais avec les enlèvements, il y aurait d'autres choses à faire. Il faudrait certainement faire des... Dès qu'il y a un enlèvement, il faut faire une espèce de réunion de crise en réunissant tous les partenaires. Parce que pour la personne qui vit un enlèvement, c'est tellement énorme qu'il y a besoin d'aide, il y a besoin de coordonner énormément de choses. On est dans un truc international quand même. Et puis juste pour finir, je voulais citer une phrase de Pedro Almodovar, peut-être vous la connaissez, qui dit... Hier soir, c'est l'enfant qui parle et qui dit « Hier soir, maman m'a montré une photo d'elle quand elle était jeune. Il en manque une moitié. Je n'ai pas osé voulu lui dire que cette moitié manque à ma vie. » Voilà.
Ben, je crois que c'est une belle fin, mais j'aimerais peut-être, si vous voulez ajouter quelque chose, Madame Guillet-Cabert, qui donc a mis en place cette discussion. Ouais. Donc c'est elle qui a fait venir les intervenants ici présents.
Écoutez, j'aimerais d'abord remercier les personnes ici présentes, hein, parce que je trouve que les questions étaient d'un grand intérêt, d'une grande richesse, et puis nous font aussi réfléchir différemment. J'aimerais beaucoup remercier Elisabeth Volkrieg et Victor, avec qui on a fait un travail exceptionnel. Je pense que notre recherche ne serait vraiment pas ce qu'elle a été s'il n'avait pas été présent. Et puis beaucoup remercier Madame Jäger, que je ne connaissais pas que par téléphone avant ce soir, et qui jette un éclairage, un bel éclairage sur la médiation. Puis je vous en suis très reconnaissante. Et oui. Si vous me permettez, après je me tais, mais j'aimerais juste faire un tout petit coup de pub pour vous dire qu'on vendra ici, c'est Jonathan Yenny qui a accepté de faire le vendeur, on vendra des exemplaires pour ceux qui seraient intéressés de notre ouvrage de recherche qui est vendu au prix de 40 francs. Alors si vous êtes intéressé, approchez-vous de lui. En tout cas, merci.
Voilà. Madame Volkrieg, le mot de la fin pour vous.
Ce n'est pas Christine Guillet-Cabert qui...
Mais c'est chacun, voilà, puis on terminera par Madame Jäger. Chacun D'accord. dit son sentiment au terme de cette soirée et puis de dire ce qu'il espère pour le futur.
Moi, mais je vous remercie tous d'être venus parce qu'on avait un peu peur, il faisait si beau sur Neuchâtel que la concurrence était forte. Et puis merci beaucoup de votre écoute et de vos questions, c'est vrai. Et puis merci à l'université et au Café Scientifique de m'avoir invité à venir ici. C'est vrai qu'en Belgique, on vit des choses très difficiles. Vous avez évoqué tout à l'heure, je vous remercie de l'avoir évoqué. Ça a des conséquences quand même assez inattendues de vivre des moments comme cela. Et c'est même émouvant, quoi. Hein. Ça détruit très vite, beaucoup plus qu'on ne croit. Ça détruit beaucoup d'ambiance, c'est toxique, ce genre d'attentat. Mais quand même, pour rester aussi, avoir un cœur intelligent, comme on dit, je pense qu'avec tous les phénomènes d'immigration que l'on connaît, peut-être un peu moins la Suisse, mais enfin, bon, c'est quand même là. Hein, avec tous ces conflits qui sont quand même très importants, il me semble qu'on a une obligation de comprendre la de quoi sont faits les conflits et pas uniquement de chercher des solutions aux conflits. Et qu'un lieu comme la médiation, mais ce n'est certainement pas le seul lieu. Hein. Ici, on a parlé de la médiation, mais il y a d'autres lieux qui sont tout à fait intéressants aussi. Permet sans doute, c'est un lieu qui a une particularité de permettre quand même le dépliement d'un conflit en acceptant de l'explorer sous différentes facettes. La facette juridique, évidemment, elle est essentielle, mais pas uniquement celle-là. Et que peut-être que si on aborde certaines conflictualités qui nous dépassent aussi, parce qu'on est fait par toutes ces choses qui se passent dans la société, peut-être qu'on arrivera à inventer parce qu'il est question d'inventer, quoi. Oui. Voilà, enfin, merci à tout le monde.
Et merci enfin, Madame Jäger, puisqu'on avait terminé par... Est-ce que la médiation peut être... C'était la question de départ. Est-ce qu'elle peut être une solution? Alors, votre sentiment, évidemment, à l'issue de ce que vous avez entendu, les témoignages, qu'est-ce que vous avez envie de dire ?
Oui, la médiation peut être une solution, sinon je ne serais pas médiatrice, si j'y crois vraiment entièrement. Hein. Ça peut être une solution, malheureusement, ce n'est pas toujours une solution. Donc, il faut quand même une certaine ouverture, faire un pas vers l'autre. Et si ce petit pas, si les gens ils restent coincés sur leur petit bout de tapis, et ils n'osent pas faire un pas vers l'autre, c'est les tribunaux qui doivent trancher et ce n'est pas satisfaisant.
D'accord. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci à vous d'avoir participé. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Café scientifique qui sera, pour le coup, consacré aux lettres. Pour un français propre, Panos ou Serpillière, de l'usage des régionalismes dans le français. Voilà, il en sera question le mercredi 18 mai. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation de printemps et vous donne rendez-vous à dans un mois. Merci beaucoup et un grand applaudissement aussi à Roland Hamsler pour sa technique qui nous permet de nous entendre. Voilà. Merci.